Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la venue du Christ, c'est la réalisation des prophéties. La figure du prophète est essentielle pour comprendre qui est le Christ, sans quoi, comme disait le Saint-Père Jean-Paul II, on croirait que le Christ est comme un météore tombé du ciel. Il n'en est rien, il a été patiemment préparé et annoncé. Je vous propose aujourd'hui, comme petite méditation, de regarder d'abord la figure des prophètes qui annoncent le Christ, c'est en tout cas la figure de ceux qui sont annoncés aujourd'hui dans cette messe, dont il est question dans cette messe, et ensuite le Seigneur qui vient dans le temps, comme une préparation à l'incarnation pour nous. Tout d'abord, les prophètes qui font parler et qui parlent du Christ. Premier point, qu'est-ce qu'un prophète ? Il faut toujours revenir à la définition, parce qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans. Un prophète, profoné, c'est quelqu'un qui est avant ce qui est dit. C'est quelqu'un qui est avant ce qui va être proféré. C'est donc qu'il se place avant la venue et qu'il l'annonce. Des prophètes, il y en a eu de nombreux dans l'Ancien Testament, et le Baptiste, sur qui nous concentrons notre regard, eh bien, c'est le dernier et le plus grand de tous les prophètes, car il lui est donné d'être devant le Seigneur, non pas devant de loin, mais devant de près, c'est-à-dire qu'il l'a devancé au point qu'il a pu se retourner et dire « Voici l'agneau de Dieu ». Un prophète, c'est quelqu'un qui dit, qui annonce, qui professe, un petit détour du grec « profoné » par le latin nous a donné « professeur », c'est la même origine, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce clairement et même qui enseigne ce qu'il croit. Alors, mes bien chers frères, pour nous, si nous voulons vraiment participer de cette prophétie du Christ, car il est venu dans le temps, mais il vient maintenant dans l'Église et il adviendra dans la gloire, ce sont les trois venues du Christ. Et donc, il faut toujours des prophètes. Il faut toujours que nous-mêmes, nous nous mettions devant la parole de Dieu pour l'annoncer. J'entends souvent dire « Oh, il faut s'effacer devant la parole, il faut… » Ben oui, d'accord, mais la parole ne parle pas toute seule. C'est-à-dire que la parole, justement, le Seigneur a voulu que sa grâce se déploie dans la nature et donc il a voulu avoir besoin de nous, des Christianus, des du Christ, pour dire qui est le Christ. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas annoncer. Il ne suffit pas de chanter « peuple de prêtres, peuple de rois, peuple de prophètes », avec la petite erreur qui est possible. Hein. Vous n'êtes pas, et moi non plus, prêtres, prophètes et rois. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Nous participons du sacerdoce royal et prophétique du Christ. Ce n'est pas la même chose. Moi-même, je ne suis prêtre qu'identifié au Christ. Et donc, si nous voulons être des prophètes, des vrais chrétiens, il nous faut nous rapprocher du Christ et donc l'annoncer, le dire. Et une des caractéristiques des prophètes, c'est qu'ils ne chuchotent pas. Comment est-il concevable qu'on nous fasse dire « il ne faut pas le dire trop fort, les gens vont finir par se rendre compte qu'on est chrétien, comme ça ». Eh bien non. Non, si nous sommes des prophètes, nous sommes une voix qui crie dans le désert. Et dans le désert, il y avait du monde. Décidément, ce monde est mal embouché pour finir par croire que crier dans le désert veut dire ne se faire entendre par personne, parce que c'est le contraire. Si le Baptiste prêchait dans le désert, il y avait une foule immense qui venait l'entendre. Voilà. Alors nous avons à prêcher, à dire et à manifester notre foi, la professer, de sorte que le Christ soit vraiment annoncé. Qui sont les prophètes aujourd'hui qui nous sont donnés dans l'Évangile ? Eh bien, pardon, dans toute la messe, il y en a trois des prophètes du Christ. D'abord, il y a le prophète Isaïe, le magnifique Rorate Celli, cet hymne de l'Avent qui se trouve dans Isaïe, et ici la parole d'Isaïe est rappelée, chapitre 45, dans l'Évangile. Alors comme préparation à Noël, vous pourriez relire le prophète Isaïe, pour vous convaincre, pour entrer dans cette logique de l'annonce du Christ qui vient. Le deuxième prophète ici qui est mentionné, vous ne pouvez pas l'avoir raté, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, le prophète essentiel. Dans l'Orient, on ne saurait représenter le Christ en gloire sans représenter le Baptiste d'un côté et la Vierge Marie de l'autre. C'est-à-dire l'Ancien Testament qui annonce l'Église jusqu'au pied de l'Église elle-même, du Christ, qui est le corps mystique de l'Église, c'est l'Église qui est le corps mystique du Christ, et la Vierge Marie qui l'enfante. Donc le Baptiste, pour nous, il est essentiel, et le Baptiste, il est dans le désert. Ça peut vous sembler anodin, ça ne l'est pas. Le Baptiste est dans le désert, il est pourtant, on vient de nous le rappeler dans l'Évangile, le fils de Zacharie, fils de grand prêtre. Il aurait dû se trouver dans le temple pour offrir des sacrifices. Il aurait dû se marier pour perpétuer la caste des grands prêtres. Il n'en est rien. Jean le Baptiste a compris que l'Ancien Testament arrivait à son accomplissement et donc à son achèvement, et que dans le Christ, tout était réalisé. Ce sacerdoce allait devenir permanent, ce sacerdoce allait devenir éternel, ce sacerdoce allait devenir total. Voilà pourquoi il n'offre plus de sacrifice. Il n'y a plus qu'un seul sacrifice, celui du Christ. Voilà pourquoi il n'est plus dans le temple à offrir. Voilà pourquoi il ne se marie pas, car ce sacerdoce va le prendre tout entier. Il y a un troisième prophète, vous ne l'avez pas encore vu dans cette messe, mais vous allez l'entendre dans la prière de l'offertoire, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie que cette messe a placée dans la prière de l'offertoire, qui est le grand prophète du Christ qui vient. Elle est tellement devant la parole de Dieu qu'elle s'est mise en dessous de cette parole pour nous la donner vraiment. Voilà des figures différentes, des annonces différentes du même Christ. C'était mon premier point, le prophète. Le deuxième point, il va falloir se concentrer, c'est un peu plus difficile, mais c'est encore plus passionnant, enfin j'espère. C'est le Christ qui vient dans le temps. Car nous allons bientôt nous réjouir benoîtement, et nous aurons raison, devant la crèche que vous avez certainement faite chez vous, que nous avons fait partout, que nous allons encore faire certainement partout, et même dans les mairies. Pour le Christ qui vient, en y faisant une petite place, c'est-à-dire que le Seigneur n'y est pas encore placé, signe que nous attendons quelque chose, et bien entendu, nous ne vivons pas de l'extérieur. Nous savons que c'est à l'intérieur de notre cœur que doit survenir le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères, que le Christ, qui est Dieu, qui est éternel, advienne dans le temps ? Alors, tout d'abord, la temporalisation de l'éternité, pour ensuite parler de l'éternisation du temps. La temporalisation de l'éternité. Quand le Seigneur est entré dans l'histoire, il a changé l'histoire. Il s'est agrégé le temps. Il y est entré. Saint Luc nous le précise avec une grande précision en nous précisant qui était l'empereur, qui était le gouverneur de Judée, quels étaient les trois fils d'Hérode le Grand, Hérode Antipas, Lysanias et Philippe qui se sont partagés son royaume, quels étaient les grands prêtres de cette année-là, Anne et Caïphe. Bref, autant de détails historiques qui nous ont d'ailleurs permis de dater dans notre calendrier la naissance du Christ. C'est Denis le Petit qui, au VIe siècle, fort de ces éléments, a daté la naissance du Christ. Peut-être s'est-il trompé de 3 ans, aujourd'hui, nous le pensons, mais enfin, c'est pas très grave, car il y a peu de personnages de l'Antiquité, aussi anciens, dont nous connaissions avec certitude et précision la date de naissance. Voilà, c'est le Seigneur qui entre dans le temps. Il est engendré dans le temps. L'engendrement du Christ, il y en a 3 aussi. Il a d'abord été engendré en dehors du temps, en dehors du temps dans l'éternité par le Père. Il a été engendré dans le monde, il y a 2000 ans, dans la Vierge Marie. Il est engendré encore maintenant dans l'Église. Parce que dans un instant, en célébrant le Saint Sacrifice de la Messe, le Seigneur va de nouveau descendre et venir s'incarner dans ce pain pour devenir l'un de nous, non seulement devenir homme, mais s'agréger toute humanité qui croit en lui. Et donc, ce n'est plus seulement l'éternité qui descend dans le temps, c'est le temps qui va remonter dans l'éternité. C'est un mouvement pour faire savant, il faut bien de temps en temps, hein, Dexitus Reditus, vous pouvez le dire ça dans un dîner, si vous voulez, savant, enfin, si les gens comprennent. C'est-à-dire que le Seigneur sort et nous ramène à lui. Et nous-mêmes, nous sommes invités à sortir de nous-mêmes pour entrer en Dieu. Oui, nous allons pouvoir être plongés en Dieu. Le baptiste, en proposant un baptême de pénitence, fait ce qui était nécessaire pour l'homme pour se disposer à Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire de mieux à force humaine. C'est-à-dire se rendre pur, essayer de purifier son cœur, essayer de faire des efforts, essayer. C'est ce que nous avons fait durant tous ces jours et durant les 7 jours qui viennent. Préparer notre cœur comme vous avez préparé la crèche pour laisser venir le Christ. Oui, mais voilà, c'est Dieu qui va faire le plus gros du travail. Ce n'est pas l'action humaine qui fait advenir Dieu, c'est Dieu qui fait advenir dans l'action humaine lui-même sa personne. Songez-y bien, ce temps inscrit pour toujours dans l'éternité, la vie du Christ sur terre, ces 33 ans qui sont le sommet de l'histoire et qui ont changé notre histoire, sont inscrits pour toujours en Dieu. Car Dieu s'est inscrit dans le temps, mais il n'est pas soumis au temps. Il s'est libéré du temps, il est toujours dans l'éternité et il a ramené avec lui ce temps. Ce temps qui est maintenant sanctifié, c'est pourquoi notre temps est saint, c'est pourquoi nos dimanches sont saints, c'est pourquoi nos fêtes sont saintes, parce que Dieu les a sanctifiés. Ainsi, quand nous célébrons les sacrements, que ce soit le baptême, que ce soit la Sainte Messe et tous les sacrements, ce n'est plus seulement une action humaine bonne qui rend louange au Seigneur, ce que c'est déjà, et c'est déjà bien, mais c'est beaucoup plus. C'est l'action de Dieu qui se rend présent, c'est l'Éternel qui se rend présent dans notre temps, c'est-à-dire que notre temps n'est plus du simple temps, le temps que vous passez à la messe devient du temps éternel, la vie éternelle dont vous vivrez éternellement. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas quelque chose qui viendra après, plus tard, un autre truc. Non, la vie éternelle, elle est déjà commencée. Quand vous célébrez, quand vous communiez au corps et au sang du Christ, alors, vous-même, vous vous inscrivez dans le temps. Mais bien, chers frères, en méditant sur le Christ qui vient dans la crèche, vous contemplerez, vous-même, votre propre âme sauvée qui va se placer entre la Vierge et Saint Joseph, unis à Dieu par l'Esprit, car la venue du Christ, c'est la venue en nous de l'éternité. Ainsi soit-il.